Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, le Collège Saint-Michel de Dijon a organisé un travail avec des classes de 4e, sous la responsabilité de Frédéric Gillot, professeur documentaliste, Fanny Chalmel-Durosier et Damien Sroda, professeur d'histoire-géographie EMC. Plusieurs élèves volontaires ont préparé et enregistré un podcast à Radio Shalom Bourgogne autour de différentes thématiques.
Le sport, un langage universel ? Par Arthur François, Albin Bernard Godet, Tsangi, Andriani Aina. Rédaction réalisée par 4 élèves de 4e B, Timéo, Sacha, Elio et Sandro.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Arthur. Bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons parler du sport. Le sport est-il un langage universel ? Pour parler de ce sujet, je suis en compagnie d'Albin, ancien footballeur professionnel qui a évolué au poste de milieu de terrain, et Tsangi, qui est un manager d'événements sportifs internationaux. Ce dernier organise et coordonne des événements comme les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Tsangi, d'après vous, pourquoi pourrait-on dire que le sport est un langage universel ?
Bonjour Arthur. Oui, on dit que le sport est un langage universel car il transcende les barrières linguistiques, culturelles et sociales. Peu importe d'où l'on vient, quelle langue on parle ou quelle croyance on a, le sport offre un terrain commun où les gens peuvent se connecter, communiquer et partager des émotions.
Vous nous avez parlé de barrières linguistiques. De quoi s'agit-il ? Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, bien sûr. La barrière linguistique est un ensemble de difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on ne parle pas la même langue.
Merci Tsangi. Maintenant que vous nous avez parlé de langage universel, Albin, expliquez-nous pourquoi le sport est considéré comme tel.
Alors, bonjour Arthur. D'une part, la pratique d'un sport se fait autour d'une passion commune. D'autre part, le sport est une activité qui peut être pratiquée par presque tout le monde, quel que soit son statut socio-économique, sa langue ou son origine. Mais il existe des pays qui n'autorisent pas certains sports à cause de diverses raisons.
Pouvez-vous nous en citer ?
Oui, j'ai quelques exemples, comme l'Arabie Saoudite, où il existe des restrictions, en grande partie sur la mixité sportive, hommes et femmes ne jouant pas ensemble. D'autres freins peuvent être d'origine religieuse ou culturelle. En Afghanistan, il y a de nombreux sports que les femmes ne sont pas autorisées à pratiquer. Il y a aussi les pays en guerre, comme la Syrie, l'Irak, le Yémen et plein d'autres, dans lesquels la pratique sportive est fortement contrainte. Ainsi, on constate que les restrictions sur certains sports dépendent largement des facteurs culturels, religieux, politiques et géographiques. Dans certains cas, la pratique de certains sports peut être limitée pour des raisons de sécurité, d'infrastructure ou de valeurs sociales et religieuses. Toutefois, l'accessibilité au sport reste immense dans le monde. Il y a l'inclusion sociale et l'égalité des chances. Il existe même le sport pour les personnes porteuses d'un handicap. N'oublions pas que le sport contribue au bien-être physique et mental pour tous. Il prévient des maladies et la réduction du stress et de l'anxiété.
Vous qui êtes un manager d'événements sportifs, pouvez-vous nous dire si le sport rapproche des cultures et des peuples différents ?
Je pense que oui. Le sport rapproche des cultures et des peuples. D'une part, le sport a souvent servi de pont entre des peuples aux histoires et aux traditions différentes.
Pouvez-vous nous citer des exemples d'événements sportifs qui réunissent des nations aux histoires différentes ?
Oui, bien sûr. Il y a les JO qui peuvent réunir beaucoup d'athlètes différents. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, le Kenya ont des histoires, des cultures et des régimes politiques très différents. Mais grâce aux JO, ces nations sont rassemblées.
J'ai aussi entendu que les Jeux de Commonwealth sont des moments de communion. Êtes-vous d'accord avec cette information ?
Oui, je suis d'accord. Effectivement, si on prend l'exemple des Jeux du Commonwealth, d'une part, ceux-ci sont une compétition multisport où se rencontrent des sportifs membres du Commonwealth. Ce sont des pays aux histoires différentes, comme l'Inde, l'Australie, le Canada et les Caraïbes, qui se réunissent autour d'un moment festif et sportif.
Je vous invite à répondre à une dernière question.
Oui, volontiers, je vous écoute.
Quels sont les grands événements sportifs qui ont eu un impact social et politique?
Concernant un contexte politique particulier, il y eut les Jeux olympiques de Berlin en 1936, qui ont été réalisés sous le régime nazi, dirigé par Adolf Hitler. Ce dernier a utilisé les Jeux comme une plateforme de propagande pour promouvoir l'idéologie nazie et la supériorité de la race aryenne. Ceci a eu un impact mettant en cause la vision raciste du régime nazi. Les idées de supériorité raciale de ce régime ont été malmenées grâce à cet athlète afro-américain, Jesse Owens, qui a remporté 4 médailles d'or dans ces JO. Des victoires mettant en rage Hitler et son parti.
Je pense également aux JO de 1968 à Mexico, où les deux athlètes afro-américains, Tommy Smith et John Carlos, ont levé leurs poings gantés de noir pendant la cérémonie de remise des médailles, après leur victoire aux 200 mètres en athlétisme. Ce qu'ils ont fait était un signe de protestation contre le racisme et les injustices sociales aux États-Unis. On a alors parlé du Black Power. Leur protestation a provoqué une violente réaction de la part des autorités américaines, mais elle a aussi mis en lumière la façon dont les sportifs peuvent influencer le débat politique et social.
Merci pour vos réponses. Si j'ai bien compris, certains événements sportifs ont eu un impact profond non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur les sphères sociales et économiques. Outre que les JO, y a-t-il d'autres compétitions qui ont marqué le sport et la société?
Oui, bien évidemment, il y en a d'autres. Je pourrais vous parler des Coupes du monde de football ou des championnats de la NBA, qui ont souvent dépassé le cadre sportif pour devenir des moments de mobilisation, de protestation ou de changement social. En résumé, les grands événements sportifs ont parfois été des déclencheurs de transformation dans le monde entier, impactant bien au-delà des terrains.
Albin, d'après vous, quels sont les sports les plus pratiqués dans le monde et pourquoi?
Tout d'abord, il y a le football, qui a une place prédominante dans le monde.
Pourquoi ce sport est-il le plus pratiqué au monde?
Le football est de loin le sport le plus pratiqué dans le monde, avec environ 4 milliards de pratiquants. C'est un sport universel, car il est très facile à pratiquer. Il suffit d'un ballon et d'un peu d'espace pour commencer à jouer, ce qui le rend accessible partout, même dans les pays où les moyens sont limités, par exemple dans les bidonvilles du Brésil, où sont nés de très grands joueurs comme Neymar. La médiatisation joue aussi un grand rôle dans sa popularité, avec de grands événements comme la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, ou les grandes compétitions continentales qui, tous les ans, attirent des millions de téléspectateurs. Ces compétitions rendent le football encore plus visible et populaire à l'échelle mondiale. En plus, c'est un sport collectif, ce qui crée un fort esprit d'équipe et de solidarité, d'où son énorme impact culturel sur divers continents, comme l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie et l'Europe.
Parlez-nous maintenant d'autres sports populaires et dites-nous pourquoi ils connaissent un tel succès.
Outre le football, en effet, d'autres sports connaissent aussi un grand succès à travers le monde. Le basketball, par exemple, avec environ 2,5 milliards d'adeptes, est extrêmement populaire, particulièrement aux États-Unis, en Chine et en Europe. Ce sport est accessible car il peut se pratiquer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. De plus, la NBA a une influence mondiale énorme, attirant des millions de fans chaque saison. Ensuite, le badminton, avec 2 milliards de pratiquants, et notamment populaire en Asie. Ce sport est peu coûteux et peut se pratiquer à l'intérieur, ce qui en fait une activité accessible à tous et à tout âge. En Chine, en Indonésie ou en Corée du Sud, le badminton est un sport majeur avec des compétitions très suivies. Citons également le volleyball avec 1 milliard de pratiquants et un sport très apprécié. Il se joue en salle comme en extérieur, et son côté ludique en fait un choix populaire pour les loisirs sans nécessiter un gros investissement en matériel.
Tsangui, Dites-nous pourquoi la pratique du sport en général est en constante augmentation.
La pratique du sport est en constante augmentation en raison des nombreux avantages qu'ils offrent. Aujourd'hui, les problèmes de santé liés à l'obésité et à la sédentarité sont de plus en plus répandus. Soulignons que la sédentarité se réfère à un mode de vie caractérisé par une faible activité physique. Face à cela, les gens prennent conscience que le sport est un excellent moyen de prévenir certaines maladies et d'améliorer leur bien-être général. De plus, dans la société actuelle, le bien-être et la santé mentale sont devenus des priorités, ce qui pousse de plus en plus de personnes à adopter un mode de vie actif. Le sport permet aussi de se détendre, de réduire le stress et d'améliorer la qualité de vie.
Maintenant, pourriez-vous nous dire en quoi les médias joue un rôle dans l'expansion de la popularité du sport?
La médiatisation joue un très grand rôle dans la diffusion des sports à travers le monde. Grâce à la télévision, aux réseaux sociaux et aux plateformes de streaming, des événements comme la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques ou encore les championnats de basketball attirent des millions de téléspectateurs. Quelques chiffres sont remarquables. Ainsi, 191,1 millions de personnes ont regardé la grande finale de football américain et 1,5 milliard ont regardé la finale de la Coupe du Monde 2022. Ces événements permettent à des athlètes célèbres de devenir des modèles et des sources d'inspiration pour les jeunes. Les images et les récits autour de ces compétitions encouragent les jeunes à pratiquer ces sports et à rêver d'une carrière dans le sport. Les réseaux sociaux ont encore amplifié cet effet, car ils permettent aux athlètes de partager leur quotidien et d'être encore plus proches de leurs fans.
Enfin, concernant cette thématique, quel impact l'accessibilité des infrastructures a-t-elle sur la pratique des sports?
L'accès aux infrastructures sportives est crucial pour la pratique du sport à grande échelle. Avoir des terrains, des gymnases, des piscines et autres équipements à proximité rend la pratique du sport beaucoup plus facile et régulière. Dans de nombreux pays, les infrastructures publiques, comme les parcs ou les complexes sportifs, permettent à une large population de pratiquer des sports gratuitement ou à faible coût. En revanche, dans les pays où ces infrastructures sont moins accessibles, cela limite souvent la pratique des sports. C'est pourquoi l'amélioration de l'accès aux infrastructures, notamment dans les zones rurales où les quartiers sont défavorisés, est un facteur essentiel pour en encourager davantage de personnes à pratiquer un sport.
Albin, pensez-vous que le sport a une influence sur la paix et la solidarité internationale?
Oui, je pense sincèrement que le sport peut jouer un rôle important pour favoriser la paix et la solidarité entre les peuples. C'est un langage universel qui dépasse les différences de culture, de religion ou d'origine. Comme on pratique un sport, on apprend à respecter l'autre, à coopérer et à partager des valeurs communes.
Médecin Guy, est-ce que le sport peut vraiment rapprocher les peuples malgré les conflits?
Prenons l'exemple de la trêve olympique. Pendant les Jeux olympiques, certains pays acceptent d'interrompre les conflits pour permettre aux athlètes d'y participer. C'est un symbole fort de paix. De plus, le sport est souvent utilisé pour soutenir des projets humanitaires tels qu'aider les réfugiés, les victimes de guerre ou les enfants vivant dans la pauvreté.
Donc le sport est vraiment un moyen de créer des liens. Mais selon vous, est-ce que le sport suffit à lui seul pour créer de la solidarité?
À mon sens, le sport permet aussi de créer des liens entre les jeunes du monde entier à travers des compétitions internationales. Sans parler la même langue, on se comprend par le jeu, le respect et l'esprit d'équipe. Bien sûr, le sport ne peut pas tout régler à lui seul. Il ne remplace pas les décisions politiques ou les efforts des gouvernements. Mais s'il est pratiqué dans un bon état d'esprit, avec de vraies valeurs, alors oui, le sport peut vraiment contribuer à rendre le monde plus pacifique et plus solidaire.
Albin, expliquez-nous pourquoi le handisport est-il un facteur d'intégration sociale?
Le handisport joue un rôle fondamental en tant que facteur d'intégration sociale car il permet aux personnes en situation de handicap de participer activement à la vie sociale et de briser plusieurs barrières liées à l'exclusion.
Quelles sont alors les raisons principales pour lesquelles Le handisport est un facteur d'intégration sociale.
Tout d'abord, il permet de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. En effet, les personnes en situation de handicap qui pratiquent un sport peuvent se dépasser, développer de nouvelles compétences et améliorer leur bien-être physique et mental. Le handisport leur permet de voir une autre perception de leurs capacités en leur montrant qu'elles peuvent accomplir des choses qu'elles pensaient impossibles. Ensuite, grâce au handisport, l'inclusion et la mixité sont favorisées. Celle-ci offre un cadre dans lequel les personnes handicapées peuvent interagir avec des valides dans un environnement sportif.
Je comprends très bien, mais sur la route d'un sportif handicapé, tout ne peut pas être aussi simple.
Ah oui, effectivement, il existe des inconvénients comme la peur de l'inconnu qui touche des candidats souvent atteints par le syndrome de l'auto-élimination, comme l'explique le directeur de Tremplin Handicap. Il dit « En raison des idées reçues, pas peur de ne pas arriver ou par la pression familiale. Beaucoup de gens en situation de handicap s'auto-censurent et s'interdisent de poursuivre leurs rêves dans le sport. » Mais enfin, je terminerai en soulignant la création de liens sociaux grâce au handicap. Ainsi, les personnes en situation de handicap entrent en contact avec d'autres athlètes, valides ou non, ce qui favorise les échanges, le respect mutuel et l'inclusion.
Un grand merci à ces deux journalistes qui ont réussi à répondre à cette thématique grâce à plusieurs sources, telles que le journal Le Monde, le site history.com et la chaîne américaine de sport ESPN, créée en 1979. Ils ont participé à cet échange et d'être venus ici pour partager avec nous vos connaissances dans le domaine du sport. Au revoir. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back thrown on the space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk. Did you?
Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, le Collège Saint-Michel de Dijon a organisé un travail avec des classes de 4e, sous la responsabilité de Frédéric Gillot, professeur documentaliste, Fanny Chalmel-Durosier et Damien Sroda, professeur d'histoire-géographie EMC. Plusieurs élèves volontaires ont préparé et enregistré un podcast à Radio Shalom Bourgogne autour de différentes thématiques.
Le sport, un langage universel ? Par Arthur François, Albin Bernard Godet, Tsangi Andriani Aina. Rédaction réalisée par 4 élèves de 4e B, Timéo, Sacha, Elio et Sandro.